Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre. Ce soir, la vie est-elle trop chère et les salaires sont-ils trop bas ? Au départ, il y avait la hausse du prix des carburants, mais comme tout mouvement social d'une telle ampleur, les revendications initiales des Gilets jaunes vont au-delà désormais et englobent maintenant la question du pouvoir d'achat. Les manifestants sont persuadés, celui-ci est en baisse, il suffit pour s'en convaincre de regarder la valse des étiquettes. Les études disent pourtant que ce ressenti ne correspond pas exactement à la réalité. Selon l'OFCE, l'Observatoire français des conjonctures économiques, le pouvoir d'achat sera en hausse cette année, ainsi qu'en 2019. Conséquence notamment des mesures prises par le gouvernement sur la taxe d'habitation et les cotisations salariales pour l'assurance chômage. Alors, ce qui est surprenant, ce n'est pas seulement ce décalage, c'est aussi que les revendications des Gilets jaunes, qui témoignent pour la plupart de conditions de vie dégradées, ne portent pas davantage sur les salaires. Si les dépenses contraintes, liées notamment à l'énergie, à l'alimentation, au logement, sont en hausse, pourquoi ne pas les compenser en obtenant des revalorisations salariales ? Alors, la vie est-elle trop chère et les salaires sont-ils trop bas ? C'est la question du soir, en compagnie de quatre journalistes. Sophie Fay, bonsoir.
Bonsoir.
Journaliste au service économie de l'Obs. C'est vous qui avez coordonné le dossier de la semaine dernière de l'Obs, pouvoir d'achat qui perd, qui gagne. Pour discuter avec vous, Romaric Godin, bonsoir.
Bonsoir.
Journaliste économique à Mediapart. Marie Vizeau, bonsoir.
Bonsoir.
Rédactrice en chef adjointe au service économie France du Figaro. Oui, c'est important de dire rédactrice en chef adjointe. Non, c'est le adjoint ou c'est le rédactrice en chef?
C'est le chef.
Vous fait cligner des yeux.
En fait, je suis chef de service au Figaro Économie.
Ah bah c'est encore.
Mais bientôt, rédactrice en chef adjointe.
Ah oui, voilà. Ah, d'accord,
voilà.
Je vous ai upgradé.
Voilà.
Et puis, lui, il est éditorialiste aux Échos, n'est-ce pas, Jean-Marc Vittori?
C'est la même, bonsoir.
Et c'est à partir d'un de vos éditoriaux, justement, que je vais commencer cette discussion. Ça datait de début octobre. On était encore loin de ce mouvement des Gilets jaunes. Et vous disiez ceci, vous écriviez ceci, Jean-Marc Vittori, à propos du pouvoir d'achat. C'est le sujet le plus brumeux du moment. Même le plus expérimenté des comptables se mélangerait les pinceaux. Est-ce que vous diriez la même chose aujourd'hui?
Oh oui, oui, oui. Oui, on a eu un nombre de chocs dans tous les sens. Et ce n'est pas fini. Hein, on a eu donc de la hausse de CSG en début d'année, de la baisse de cotisation pour les salariés. On a eu de la baisse de l'impôt sur le capital. On a de la baisse de la taxe d'habitation. On a aussi de la hausse des taxes sur les carburants, couplée avec une hausse du prix du pétrole. On a une pagaille sur les revenus sans précédent, dans, je pense, depuis très très longtemps. Juste quelques chiffres. Hein, le pouvoir d'achat cette année, il aura fait en France, selon l'INSEE, moins 0,5% au premier trimestre, plus 0,7% au deuxième, plus 0,5% au troisième et plus 1,7% au quatrième. Donc une variation extrêmement forte. Et ce n'est pas fini. L'an prochain, au 1er janvier, on réaugmente les taxes sur le carburant. Et puis, on va avoir l'entrée en vigueur du prélèvement à la source. Donc les gens ne vont plus être prélevés le 15 janvier quand ils sont mensualisés, mais ils vont être prélevés d'un peu moins le 30 janvier. Mais en revanche, ils vont être prélevés aussi en novembre et décembre, alors qu'actuellement, quand vous êtes mensualisé, vous n'êtes pas prélevé comme ça. Voilà. Donc on est dans un gymkhana absolument infernal. C'est très difficile de se retrouver. Aujourd'hui, le moment pressé où on en est, on a eu une baisse forte en début d'année, on a eu quelques baisses, quelques relèvements ensuite, et on va avoir une forte hausse du pouvoir d'achat, mais que les gens ne voient pas encore.
Oui, voilà, c'est ça qui est quand même assez paradoxal, Sophie Fay. Enfin, même si on comprend assez bien avec vos explications, Jean-Marc Vittori, c'est que le pouvoir d'achat augmente, mais qu'il y a une telle confusion peut-être effectivement entre ce qui baisse et ce qui monte, qu'on a énormément de mal à s'y retrouver, y compris peut-être d'ailleurs quand on est un journaliste spécialisé, Sophie Fay.
Oui, on est obligé d'avoir recours à des instituts qui évaluent. Donc il y a deux instituts qui ont fait ce travail. Il y a l'OFCE et il y a l'Institut d'évaluation des politiques publiques, l'IPP. Et dont on publie le graphique dans le journal dont vous parliez tout à l'heure. Et finalement, ce qui est quand même assez intéressant dans ce graphique, c'est qu'il correspond assez bien au ressenti des gens, même si effectivement c'est assez brumeux, puisque on voit qu'il y a une perte de pouvoir d'achat chez les ménages les plus pauvres, les 10% les plus pauvres, qui subissent de plein fouet la hausse des taxes sur le carburant et la hausse des taxes sur le tabac, comme en proportion de leur revenu. Ils consomment beaucoup, ils payent plus que d'autres. Il y a une explosion du pouvoir d'achat des 1% les plus riches, c'est ceux qui ont bénéficié de la fin de l'ISF sous l'ancienne forme et de la baisse de la fiscalité du capital. Et puis il y a une grosse masse qui gagne un petit peu, qui sont tous les gens qui bénéficient des, de la bascule justement des cotisations sur la CSG, et les 20% les plus riches qui perdent, puisque eux ne bénéficient pas de la baisse de la taxe d'habitation. Donc finalement, ça correspond quand même assez au ressenti des gens, puisque ceux que l'on voit dans la rue aujourd'hui, ce sont beaucoup les gens qui gagnent entre 1 et 2 SMIC et qui sont... Vous savez, ça, gagner entre 1 et 2 SMIC, ça veut rien dire parce que ça dépend combien de personnes vivent sur ce revenu. Mais ce sont eux qu'on voit beaucoup parmi les gilets jaunes. On voit aussi beaucoup de retraités et les retraités, eux, sont globalement perdants.
Les craintes sur le pouvoir d'achat sont-elles irrationnelles? C'était le titre d'un article que vous avez signé il y a quelques jours de cela, Marie Vizeau, pour le Figaro. Vous y avez répondu comment et vous y répondez comment à cette
question? Alors, on ne répond pas de manière tranchée à cette question parce que si effectivement les gens ont ce sentiment sur le pouvoir d'achat, c'est qu'il y a des raisons. Après, il y a des chiffres qui viennent se confronter à ça. Le dernier recul, le réel recul chiffré du pouvoir d'achat, il remonte à 2013. C'était la grande année du ras-le-bol fiscal, les hausses d'impôts de François Hollande. Là, cette année-là, les prélèvements avaient été tels que, effectivement, le pouvoir d'achat avait baissé depuis.
Le pouvoir d'achat moyen, attention.
Le pouvoir d'achat moyen. Et c'est le deuxième point du sujet, c'est qu'on parle toujours en moyenne. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui gagnent et des gens qui perdent. Alors effectivement, en moyenne, on était sur une hausse de 1,8 en 2016, 1,3 en 2017, et qui devrait effectivement reprogresser de 1,3 en 2018, mais ce sont des moyennes. Et donc, il y a des gens qui profitent de ces moyennes et des gens qui n'en profitent pas. Alors, est-ce que c'est irrationnel? On ne va pas avoir la prétention de dire que ça ne l'est pas. Moi, je me suis penchée pour essayer de comprendre le point de vue de ceux qui sont dans la rue aujourd'hui sur une donnée qui est très très regardée par l'INSEE, qui est celle des dépenses contraintes. Vous l'avez évoquée dans votre présentation. Les dépenses contraintes, ce sont toutes les dépenses auxquelles les Français ne peuvent pas échapper, soit par contractualisation, c'est les dépenses liées au logement, à l'eau, à l'électricité, au gaz, au remboursement des crédits.
L'alimentation, non, j'imagine.
Non, l'alimentation n'est pas dedans. La cantine des enfants est dedans.
C'est étonnant parce que alors s'il y a une dépense qui est contrainte, a priori,
oui, mais après on a le choix dans l'alimentation. Donc ce sont vraiment les dépenses contraintes. Et la part de ces dépenses entre 1960 et aujourd'hui, la part de ces dépenses dans la consommation des ménages, elle est passée de 15% à 34%. C'est-à-dire que les Français n'ont plus le choix, il faut dépenser 34% de leur consommation sur ces dépenses. Ça veut dire que ce qui leur reste, eh ben c'est de moins en moins important pour consommer ce qu'ils veulent, pour faire les dépenses qu'ils veulent. Donc ils ont l'impression, dans leur budget, d'avoir de moins en moins. Et ça explique une partie du problème.
C'est ce décalage, Romaric Gonin, entre effectivement ce que disent les chiffres en moyenne et puis ce que vivent les gens dans les contraintes qui sont les leurs par rapport à leurs dépenses, qui explique ce ressentiment par rapport au pouvoir d'achat aujourd'hui?
Je pense que oui, parce que effectivement, on parle, quand on évoque les chiffres, on évoque effectivement des chiffres moyens. Et encore plus cette année, on en a fait le tour avec les mesures qui ont été prises, il y a des écarts considérables, Sophie l'a souligné, hein, notamment entre les plus pauvres et les plus riches, mais je dirais entre tout le monde et les plus riches. Et donc, il y a ce sentiment que le chiffre moyen qui est avancé, qui est le chiffre scientifique, statistique avancé par l'INSEE, est un chiffre truqué parce que il ne prend pas en compte la réalité de ce que vivent les agents économiques et les consommateurs. Ce qui n'est pas totalement faux d'une certaine façon, puisque dans l'augmentation moyenne du pouvoir d'achat en 2018, il y a la fin de l'ISF et la flat tax, le PFU, qui concerne principalement ceux dont les revenus sont des revenus du capital, donc les plus riches. Et donc si on retranche cette partie-là de l'augmentation de 1,3 qui déjà est stagnante en progression par rapport à l'année dernière, eh ben on se retrouve avec un ralentissement si on exclut cette partie-là. Et donc effectivement, il y a ce sentiment que on a le sentiment que ça va moins vite, que ça augmente moins vite et qu'on nous dit mais non, ça va bien. Et à cela j'ajoute qu'il y a quand même eu un jeu très dangereux du gouvernement là-dessus, qui en fait, pour essayer de faire passer ces mesures fiscales à destination du capital, a beaucoup insisté sur le pouvoir d'achat, que ce soit la présentation du projet de loi de finances 2017 ou encore 2018 pardon, l'année dernière, ou encore cette année sur le pouvoir d'achat 2019, le gouvernement n'arrête pas de marteler qu'il est le gouvernement du pouvoir d'achat, etc. Or, il a fait des choix qui n'allaient pas dans le sens du pouvoir d'achat, notamment la division de la baisse des cotisations salariales.
Il y a quand même des choix qui vont dans le sens du pouvoir d'achat, Romaric Godin. Enfin, je vous pose la question à tous. C'est la suppression, alors progressive, de la taxe d'habitation, les cotisations salariales sur l'assurance chômage. Est-ce qu'il n'y a pas eu aussi un problème, comment dire, d'après-vente politique de ces mesures, c'est-à-dire d'avoir d'abord fait augmenter la CSG, ce qui fait qu'on ne retient que ça, et que c'est ce qui pourrait aussi expliquer que ce défaut de perception de hausse du pouvoir d'achat, il est lié aussi à cette séquence en deux temps, Sophie Fay.
Je crois que c'est surtout lié à l'injustice. En fait, les gens ont vu que tout de suite, on appliquait tout de suite la promesse de réduction d'impôts qui avait été faite aux ménages les plus riches avec cette réforme de la fiscalité de l'impôt sur le capital. Et pour les autres, ça pouvait attendre. Donc on pouvait étaler la bascule des cotisations dans le temps, on pouvait étaler la baisse de la taxe d'habitation, on pouvait étaler la revalorisation de certains minima sociaux,
mais de la prime d'activité, la CSG, pour le coup.
Mais pas la hausse de la CSG. Et donc l'idée de... pour les retraités, de payer un peu plus pour que les actifs, donc leurs enfants, vivent mieux, c'était acceptable. Mais l'idée de payer un peu plus pour financer les baisses d'impôts sur le capital, sur le patrimoine, ça passe pas chez beaucoup d'entre eux. De la même manière, l'idée d'avoir une augmentation des carburants à la rentrée pour continuer à financer la baisse de taxes d'habitation, quand vous êtes un ménage très modeste, exonéré de l'impôt sur le revenu, vous avez souvent aussi une exonération ou une réduction sur la taxe d'habitation, donc vous n'en profitez pas. Donc vous avez l'impression de payer pour des gens qui sont mieux lotis que vous. Et ça, c'est difficile à accepter pour les gens.
Jean-Marc Vittori.
Alors on a un système qui est très compliqué, hein. C'est un peu ce que racontait Sophie. Et donc pour avoir des mesures qui soient efficaces sur une population ciblée, c'est en réalité extrêmement compliqué. Chaque gouvernement, hein, si vous regardez depuis 15 ans, s'y est cassé les dents. Moi, je voudrais revenir un petit peu en amont sur la promesse présidentielle. Nicolas Sarkozy, quand il s'est fait élire en 2007, avait dit « je serai le président du pouvoir d'achat ». Ce n'était pas du tout la promesse d'Emmanuel Macron. Il ne l'a pas dit. A été rajouté dans le programme, un petit peu par raccro, hein, l'histoire de la taxe d'habitation, justement parce qu'il y a un certain nombre de militants de La République En Marche qui ont dit « oh, gling, gling, il faut faire quelque chose sur le pouvoir d'achat ». Mais ce n'était pas la promesse de fond du candidat Emmanuel Macron.
Et il l'a dit ensuite, une fois devenu président.
Ensuite, il s'est laissé un peu enfermé dans cette histoire-là. Et ça rappelle un peu François Hollande avec l'histoire du chômage. François Hollande n'avait pas promis d'inverser la courbe du chômage pendant sa campagne. Il l'a dit 6 mois après et ça lui a collé à toute la suite de son quinquennat. Et Emmanuel Macron, il est en train de lui arriver un peu la même chose avec cette histoire du pouvoir d'achat.
Est-ce que vous diriez, Marie Vizeau, que l'augmentation du pouvoir d'achat, alors que donne l'augmentation moyenne, hein, et que donnent les instituts qui sont chargés justement d'évaluer cette question, elle est conforme à la situation économique de la France? Ou bien est-ce que, parce que la croissance revient, alors le chômage stagne aujourd'hui, mais est-ce que, en tout cas, étant donné la situation économique de la France, le pouvoir d'achat aurait dû quand même augmenter bien davantage que ce qu'il augmente aujourd'hui?
Il aurait pu, mais il n'est pas complètement incohérent. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans des niveaux hyper faibles du 0,3, 0,4, 0,5. Alors certes, ça stagne par rapport à l'année dernière, Romaric le disait, mais c'est pas totalement incohérent. Je vais rebondir un petit peu sur ce que disait Jean-Marc, qui effectivement rappelait que la campagne présidentielle d'Emmanuel Macron, elle n'avait pas du tout été faite sur le thème du pouvoir d'achat. Elle avait été faite sur le thème de le travail devait payer plus, et c'était le travail qui devait bénéficier aux Français. Et lui, dans son esprit, c'était la richesse créée qui allait effectivement donner de l'emploi, donc du salaire, donc du pouvoir d'achat. C'est-à-dire que la spirale, il la faisait dans ce sens-là. Or, le problème, c'est que les effets de la politique économique qui est menée tardent. On le voit, et maintenant ils le regrettent. Ils disent « je reconnais l'impatience des Français, je reconnais que c'est pas allé assez vite ». Et Et c'est là où il est un peu pris au piège. Lui, le pouvoir d'achat, il le voyait arriver en conséquence de sa politique, pas en amont dans les 18 premiers mois comme une politique du pouvoir d'achat en tant que telle.
Mais dans ce cas, pourquoi est-ce que les revendications ne portent pas davantage sur la question de l'emploi? Et pourquoi est-ce qu'elles sont essentiellement tournées sur cette question du pouvoir d'achat, Romaric Gonin?
Je pense que les revendications aujourd'hui des gens qui, enfin, des gilets jaunes, ce sont des gens qui sont en emploi la plupart du temps. Pas seulement, il y a aussi évidemment des chômeurs ou des gens qui sont en précarité, mais et principalement et des retraités, pardon, évidemment, on l'a dit, et ce sont les premiers touchés par la hausse de la CSG non compensée. Mais là, ça concerne directement les gens qui sont déjà en emploi. Et je crois que c'est aussi un élément important, c'est que quand on regarde l'évolution du salaire, des salaires en France, on a un salaire nominal qui augmente, mais qui en fait a du mal à prendre en compte l'inflation. En fait, hein. Je regardais les chiffres de l'INSEE, c'est voilà, on a un salaire nominal qui grosso modo va augmenter moins vite qu'a augmenté l'inflation cette année, et avec un salaire réel, donc défalqué de l'inflation, qui va être à peu près qui va augmenter de 0,4 cette année, c'est-à-dire comme l'année dernière, ce qui est assez peu. Et donc on a le sentiment, notamment parce qu'il y a eu toutes les réformes du marché du travail, que en tant que salarié, on a de moins en moins de prise sur la négociation salariale et sur la formation du salaire. Et donc on demande en fait que le pouvoir d'achat se forme en dehors de ce qui devrait être le premier lieu où se forme le pouvoir d'achat, qui est le salaire, c'est-à-dire sur les taxes sur le salaire, les taxes indirectes sur la consommation. Et donc c'est pour ça qu'on se tourne vers l'État en disant, bah voilà, c'est à vous de nous faire de nous donner ce pouvoir d'achat.
Vous êtes d'accord les uns et les autres, Jean-Marc Vittori, Marie Vizeau, ouais, et Sophie Frey là-dessus, c'est-à-dire on se tourne davantage vers l'État finalement aujourd'hui que vers les entreprises qui seraient peut-être en capacité justement d'augmenter les salaires et par conséquent d'augmenter le pouvoir d'achat. Sophie Frey, Jean-Marc Vittori et Marie Vizeau dans l'ordre.
Alors, c'est vrai qu'on se tourne vers l'État pour tout, même pour revaloriser, par exemple, une des revendications des Gilets jaunes, c'est, et on a vu aujourd'hui aussi hier avec la manifestation des infirmières, c'est qu'on reconnaisse mieux ces métiers de service à la personne qui sont dévalorisés et qui sont pas très bien payés. Il y a pas longtemps, l'OCDE a montré, la Banque mondiale a montré un classement du salaire des profs en France, ils sont aussi beaucoup moins bien payés que dans les autres pays de l'OCDE. Dans les autres pays d'Europe. Donc on comprend qu'il y ait cette revendication salariale. Mais les gens ont intégré qu'il y avait cet impératif de compétitivité, que l'État n'avait plus d'argent, que les collectivités locales n'avaient plus d'argent. Et donc petit à petit, ils n'osent plus revendiquer de ce point de vue-là. Et puis les augmentations de salaire, elles se polarisent. D'une certaine manière, vous avez les gens qui sont sur les professions, les secteurs où il n'y a pas de chômage et les régions où il n'y a pas de chômage, où les professions sont en tension. Là, quand on a un emploi, on est en CDI, on peut bouger vers une autre entreprise qui, à ce moment-là, va augmenter votre salaire. Et puis, vous avez les régions où il n'y a pas d'emploi et vous avez les professions où il y a plus de concurrence et où, vous voyez, où il y a moins de diplômes, donc vous êtes moins recherché. Et donc, dans ce cas-là, il n'y a pas beaucoup de hausse de salaire. Et donc, on se retrouve avec une polarisation très forte. C'était d'ailleurs le titre d'un livre de Jean-Marc, hein, l'effet sablier, ouais. qui se manifeste très fort là, parce que en plus de l'avantage fiscal, la hausse de salaire, les hausses de salaire et les hausses de rémunération, elles concernent plutôt ces Français, les 5 ou 1% les plus riches, plutôt que ceux qui sont en bas de l'échelle des salaires, qui eux ne voient rien venir, à part la revalorisation du SMIC ou le suivi de l'inflation.
Jean-Marc Vittori.
Alors, il y a plusieurs choses très importantes dans ce qu'a dit Sophie. Premièrement, je crois qu'effectivement, il y a un besoin de reconnaissance et de respect dans ce qu'expriment les Gilets jaunes, qui est manifeste, qui est évident. Le gouvernement, l'exécutif, commence à se rendre compte du problème. Et c'est quelque chose, les gens qui ont fait la campagne de tous les bords l'an dernier, en militant de base, ont senti ce besoin-là, et c'est quelque chose qui s'exprime très fortement. Ensuite, sur la question des revenus, je crois qu'il y a vraiment un problème, c'est pour ça que je me permettais d'insister sur les retraités. Les retraités avaient été annoncés clairement pendant la campagne qu'il y aurait une hausse de la CSG qui se prendrait dans la figure. Ils se la sont prises, c'était annoncé. Mais il y a aussi eu une annonce d'une hausse des retraites moins forte que l'inflation. Et ça n'avait pas du tout été annoncé. Alors, se prendre un coup de matraque quand on vous a prévenu, c'est désagréable. Quand on vous a pas prévenu et qu'on le fait en loose day, ça devient insupportable. Et c'est pour ça que je pense que parmi les Gilets jaunes, on voit un certain nombre de gens qui sont dans cette situation-là.
Ça, c'est pour les retraités, mais pour les salariés, alors, il y a aussi ce même phénomène. Venir, hein. Et les chiffres de la DARES, juste pour les citer, une des directions du ministère du Travail, chiffre qui date du mois d'août, dans les entreprises de plus de 10 salariés, le salaire mensuel de base a progressé de 1,5% sur un an, alors que l'inflation a progressé de 1,7%. C'est vrai, et manifestement, c'est quelque chose de, si ce n'est inédit, mais enfin de suffisamment rare pour être relevé. Est-ce que ça veut dire qu'il y a un décrochage aujourd'hui?
Non, c'est quelque chose de ponctuel qui est lié à une flambée des prix de l'essence. Dans 6 mois, on n'en parlera plus. Donc non, ça n'induit pas un changement de paradigme, un changement brutal. En revanche, ce qui se passe dans les entreprises, quand on regarde, avant d'aller au niveau fin qu'évoquait Sophie, au niveau global, l'entreprise, elle peut augmenter les salaires quand elle a une production qui augmente, quand elle a une production par tête qui augmente. C'est ce que les économistes appellent la productivité. Or, les entreprises font aujourd'hui des gains de productivité très faibles. Hein. La part des salaires dans la valeur ajoutée que produisent les entreprises, en France, est plus élevée que dans la plupart des autres pays. Et donc, c'est difficile aujourd'hui pour les entreprises d'augmenter cette part des salaires, alors que elle est déjà plutôt élevée, encore une fois, quand on fait de la comparaison internationale.
Marie Vizot.
Alors moi j'irais même plus loin, je dirais qu'il n'y a pas vraiment de problème de salaire en France. Alors effectivement il y a ce petit écart entre les augmentations de salaire en moyenne par rapport à l'inflation, mais on n'est quand même pas dans l'Allemagne du début des années 2000 où on était en modération salariale sévère pour que les entreprises regagnent en compétitivité. Enfin on se souvient quand même de cette période où vraiment les Allemands auraient pu dire qu'il y avait un problème de salaire. En l'occurrence ils le disaient pas très fort parce que c'était vraiment une stratégie qui avait été pensée entre les syndicats, les salariés et le gouvernement. Donc, eux auraient pu se plaindre. Aujourd'hui, je pense pas qu'il y ait un véritable problème de salaire en France.
Mais est-ce que vous pensez pas, Marie-Josée, qu'il peut y avoir aussi un phénomène d'autocensure, c'est-à-dire les salariés qui se disent, on est toujours en période de crise, peut-être qu'on ne l'est plus, mais il y a toujours un décalage entre le moment où on en sort et le moment où on comprend qu'on en est sorti, qui fait que ces revendications-là, elles n'émergent pas davantage, alors que peut-être que les entreprises auraient quand même la possibilité, si elles le voulaient, d'augmenter les salaires.
Mais pourtant, si vous demandez à quelqu'un s'il est assez payé, il vous dira jamais oui.
Est-ce que vous êtes assez payé, vous ?
Bah, je vais pas vous dire oui, je vais faire comme tout le monde. Non, mais vous voyez, du coup, effectivement, c'est pas une revendication qui est dans la rue. Alors, effectivement, comme on se tourne vers l'État et que l'État peut pas grand-chose sur les salaires en dehors de la revalorisation du SMIC, c'est pas ça qui est crié dans la rue. C'est beaucoup plus facile de crier Macron démission. Et puis finalement, on sait pas ce qu'on veut derrière Macron démission, parce que ça, c'est un autre sujet des revendications des Gilets jaunes. On ne sait pas ce qu'ils veulent. Finalement, donc nous on interprète ça comme pouvoir d'achat. Effectivement, la hausse des taxes est dans le débat, mais on sait pas ce qu'ils veulent. Alors, je suis un peu provocatrice volontairement en disant qu'il n'y a pas de problème de salaire en France. Après, ce qui nous amène à nous interroger sur la question du revenu, et là on pourrait aussi élargir à la question de la composition des ménages. C'est beaucoup plus difficile pour la société évolue. Il y a beaucoup plus de familles complexes, de familles seules, de femmes avec des enfants. Ces gens-là, même si les chiffres montrent que ça progresse un peu, pour eux, c'est réellement plus difficile.
On a évoqué la revalorisation, on l'a évoqué sans vraiment en discuter, justement, la revalorisation du salaire minimum, la revalorisation du SMIC. On a trouvé quelqu'un qui en parle, c'est Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT, qui évoquait cette question justement samedi dernier sur Europe 1 en disant, le gouvernement va bientôt être amené à travailler sur cette question. Pourquoi est-ce qu'il n'irait pas justement vers cette revalorisation? Est-ce que c'est quelque chose qui est totalement à exclure aujourd'hui, Romaric Gaudin?
Du point de vue du gouvernement, je pense que oui, puisqu'on est dans une stratégie qui est une stratégie de compétitivité coût principalement, et que effectivement on a plutôt comme stratégie, puisqu'on on va quasiment supprimer toutes les charges sur le SMIC, de maintenir une Le problème, si vous voulez, c'est que c'est toujours pareil, quoi. Les salaires sont toujours trop élevés pour les entreprises et toujours pas assez élevés pour les salariés. Bon, moi, ce que je constate, c'est que effectivement, le taux de marge des entreprises est plus faible en France qu'ailleurs. C'est le cas depuis très longtemps. Ça n'empêche pas la France d'avoir un taux d'investissement très élevé et ça n'empêche pas la France de manquer de compétitivité. Donc il y a quelque chose qui se passe là qui pose problème, qui n'est pas forcément une question de salaire, qui n'est pas forcément... Il n'y a pas de débauche salariale en France. Depuis 2013...
De débauche salariale, qu'est-ce que ça veut dire ?
On n'a pas une sorte de comment dire, on n'a pas des salaires qui explosent et qui voilà.
On a juste des salaires. On a sur les salaires. Hein, on a des salaires en France et ça c'est une vraie différence par rapport à ce qui se passe dans des pays qui sont extrêmement différents, que ce soit l'Espagne, le Royaume-Uni ou l'Allemagne, pour prendre trois modèles extrêmement différents. On a en France des salaires qui augmentent extrêmement régulièrement par rapport à ce qui se passe ailleurs, qui vente, qui neige ou qui fasse grand beau. On a un pouvoir d'achat du salaire qui augmente année après année. Les exceptions sont extrêmement rares. Écoutez, et ça si provient regardez, d'un système
moi,
de négociation
pas ce que je
collective.
Vois, en tout cas, c'est pas ce que je vois. Je vois des salaires qui sont sur un plateau depuis la crise. Donc, c'est pas tout à fait ça. Je vois
on a aujourd'hui.
Le coût unitaire salarial qui a augmenté en 2017 de 0,4% contre un 6% en Allemagne. Je vois pas ça, moi.
En Allemagne, après 15 ans de ceinture extrêmement serrée.
Bien sûr. Donc, il y a bien un rattrapage. Donc, effectivement, on n'est pas du tout dans cette logique où le salaire français serait déconnecté de la situation de compétitivité du pays. C'est pas vrai.
Juste sur le SMIC, je crois que la question est tout à fait importante. Hein. La France a un SMIC quand on le compare au salaire médian. Le salaire médian, c'est celui, il y a la moitié des Français qui gagnent plus, la moitié des Français qui gagnent moins. Quand on regarde le SMIC français par rapport au salaire médian français, il est élevé, il est plus élevé que dans tous les autres pays. Et la France, premier point. Deuxième point, la France a un taux de chômage qui est parmi les plus élevés.
Le chômage. Vous faites un lien entre le niveau du SMIC et le niveau de chômage ?
Qui touche le chômage ? Le chômage touche les gens peu qualifiés, surtout. Les gens peu qualifiés, leur salaire est déterminé souvent par le SMIC. Donc on peut continuer à augmenter le SMIC, mais il faut avoir ce lien-là en tête de manière très, très forte.
Ça voudrait dire que la question, elle pourrait se poser différemment. Est-ce qu'il faut baisser le salaire minimum pour que ça crée davantage d'emplois et que finalement les gens regagnent du pouvoir d'achat, Sophie Fay ?
Le gouvernement a choisi de baisser les charges sur le salaire minimum pour que ça permettent d'augmenter un peu le pouvoir d'achat.
Ça marche.
Et d'augmenter, mais ça marche quand même, puisque, alors c'est pas des montants énormes, mais je crois que c'est quand même 30 euros par mois. Et surtout d'augmenter la prime d'activité et qui fait un complément de salaire. Donc ça, c'est leur stratégie pour l'instant au niveau du SMIC, plutôt que d'augmenter le SMIC lui-même. Et l'augmentation du SMIC ne résoudrait pas tous les problèmes parce que ce qu'on voit aussi dans les gens qui sont dans la rue et dans les gens qui ont cette réticence à l'impôt aujourd'hui, ça a été très bien décrit par un sociologue qui s'appelle Alexis Spire qui a publié une enquête cet automne, résistance à l'impôt, attachement à l'État. Ce qu'il montre, c'est que les Français qui sont le plus arc-boutés contre l'impôt, ce sont les indépendants, les artisans et cette nouvelle classe d'auto-entrepreneurs. En fait, ce sont des gens qui déclarent toutes leurs cotisations, tous leurs...
les gens qui se rendent
et qui
compte,
se rendent
de,
compte de ce qu'ils payent vraiment. C'est pas déduit automatiquement, c'est pas comme de la TVA qu'on ne sent pas toujours, ils savent. Et donc, à eux, que peut répondre que l'augmentation du SMIC ne change rien pour eux.
Marie Lizot.
Et puis, augmenter le SMIC, on pourrait prédire une négociation très corsée avec les entreprises. Hein, parce que augmenter le SMIC, c'est pas que augmenter le SMIC, ça veut dire augmenter tous les échelons supérieurs. Les entreprises, pas sûr qu'elles en aient les moyens aujourd'hui.
Mais pourquoi est-ce que cette question, qui en tout cas moi me paraissait extrêmement présente à une époque, a fini quand même totalement par disparaître ? Au-delà du fait qu'il y a peut-être donc le fait que dans les entreprises, on ose moins en tout cas faire ces demandes-là. Il y a peut-être aussi d'ailleurs le signe d'une faiblesse de ce qu'on appelle les corps intermédiaires, et en particulier les syndicats de salariés, qui fait que cette question-là, elle est moins présente. Est-ce que ça traduit pas aussi une modification, on va dire, du marché du travail et de ce paysage qui fait que c'est peut-être moins justement à travers des organisations représentatives que se font aujourd'hui les revendications autour de cette vaste question du pouvoir d'achat, Marie Vizot ?
C'est compliqué votre question.
En réalité, dans les grandes entreprises, il n'y a pas ce problème parce que les salaires sont au-dessus du SMIC. Si vous prenez les entreprises du CAC 40, elles sont internationales, elles gagnent beaucoup d'argent, elles ont des bénéfices et il y a des représentants syndicaux. Il y a justement ces intermédiaires entre les salariés. Et donc là, ça les salaires bien. Progressent, ouais, ça fonctionne bien. Il y a de la formation, beaucoup. Il y a des avantages, il y a une bonne mutuelle, des comités d'entreprise. Et puis vous avez de l'autre côté, les petites entreprises qui vont bien et qui arrivent à faire ça aussi, mais aussi beaucoup de petites entreprises, très petites entreprises, où les salariés voient bien que c'est pas si facile que ça, que la rentabilité n'est pas là, que la concurrence est juste, qu'on est dépendant d'un marché qui vient ou qui vient pas, ou qu'on perd. Et donc là, c'est beaucoup plus dur. Et donc on a vraiment, je reviens sur cette idée de polarisation. Il y a des salariés qui vont très bien et qui ont un peu tous les avantages. Et puis il y a une autre France qui est beaucoup plus précaire. Et qui subit davantage les CDD, l'intérim, l'auto-entrepreneuriat et ces formes de travail où là, effectivement, il n'y a pas de représentants, il n'y a pas de corps organisé pour se défendre, il n'y a pas moyen de peser sur ces questions, y compris sur les autres éléments du pouvoir d'achat, la mutuelle, les chèques vacances, le comité d'entreprise. C'est important, ça représente pas mal d'argent aussi, l'intéressement, la participation, qui sont très gros dans les grandes entreprises, qui sont très significatifs dans les grandes entreprises où ça peut aller, ça peut représenter plus d'un mois de salaire et très pratiquement inexistant dans les toutes petites entreprises.
Marie-Lizot.
Bah, tout ça pour dire que on l'évoquait tout à l'heure, c'est très difficile de faire des généralités. Nous, on parle de moyenne et finalement le ressenti des Français, la réalité des Français, elle est différente selon chacun. Ce qui est peut-être sûr, c'est que ce n'est que la création de richesse qui créera de la distribution de richesse. Et aujourd'hui, il nous manque de la croissance. Il nous manque peut-être une stratégie sur le plan de la politique économique pour la croissance. Enfin, je sais pas ce qu'en pensent mes camarades, mais sans ça, on ne va nulle part.
Ce n'est que la création de richesse. Romaric Godin, je vous ai vu un peu deviner.
Le salaire, c'est pas une récompense de la création de richesse. C'est ce qui participe à la création de richesse. Donc, c'est un peu plus. Enfin, la question du salaire, elle se pose pas en termes, à mon avis, de création de richesse. Autant l'intéressement, la participation, etc. Ça, c'est plus dans ce genre-là. C'est plutôt le rapport, effectivement, comme l'a dit Jean-Marc Vittori, à la productivité. Et le fond du problème, c'est effectivement cette question de croissance, qui est une question de productivité, qui se pose en France, qui se pose ailleurs également, mais qui se pose en France avec une acuité, je trouve, assez importante et c'est aussi le point, l'angle mort du gouvernement, c'est qu'il a défiscalisé le capital pour essayer de développer de booster cette productivité. Alors on va dire que évidemment c'est trop tôt pour juger, etc. Très bien, sauf que effectivement, ce qu'on voit, c'est que cette stratégie là elle a beaucoup de limites et elle marche pas forcément. Et donc
cette stratégie-là, d'ailleurs, est-ce qu'elle date seulement du quinquennat Macron ou est-ce qu'elle n'avait pas déjà été engagée sous le précédent quinquennat avec François Hollande, Romaric Godin?
De toute façon, le CICE, c'était déjà un peu ça. Mais ce qu'on voit, c'est qu'en réalité, le taux d'investissement augmente, l'investissement des entreprises augmente, mais que la compétitivité n'augmente pas, la productivité augmente peu. Et donc, effectivement, ça pose un problème ensuite pour rémunérer le travail dans le partage travail-capital, mais il est normal que les travailleurs qui ne font pas ces choix, c'est pas eux qui font les choix de productivité, c'est pas eux qui décident si il faut aller chercher un marché en Asie ou en Amérique latine. Donc à un moment, il faut aussi que chacun prenne ses responsabilités et que la responsabilité soit mieux partagée. Et peut-être qu'il faut instiller un peu dans les entreprises de cette démocratie, de ces contre-pouvoirs qui permettent à un moment de donner un nouvel élan aux entreprises et qu'on ne se contente pas simplement de compter uniquement sur le bon vouloir du chef d'entreprise.
Et à ce sujet, il y a d'ailleurs une phrase de l'économiste Patrick Artus qui a co-écrit un livre sur la révolte des salariés qui dit « C'est un monde à l'envers qui s'est dessiné en l'espace de 2 ou 3 décennies. Les premiers vrais associés aux difficultés de l'entreprise, ce sont les salariés qui ajustent leurs conditions de travail et leurs revenus à la baisse. » Jean-Marc Vittori.
Moi, je suis tout à fait d'accord. Il y avait deux économistes qui l'avaient écrit il y a plus de 10 ans déjà, qui sont considérés comme d'atroces libéraux, qui sont Augustin Landier et David Tesmard, qui avaient créé un petit papier de la Fondation de l'Institut Montaigne. Ils expliquaient exactement ça. Ils expliquaient avant les actionnaires d'une entreprise portaient les risques. Ils avaient une rémunération en fonction de ce risque. Et puis les salariés ne portaient pas le risque, ils apportaient leur travail. Et donc ils avaient une rémunération qui est moindre. Si vous regardez l'évolution qu'on a eue depuis 30 ans, aujourd'hui, les dividendes des entreprises sont devenus extraordinairement réguliers. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le risque, ils ne le portent plus. Le risque s'est reporté au moins en partie sur les salariés. C'est des économistes très libéraux qui le disaient il y a déjà plus de 10 ans. Et clairement, on a un problème là-dessus. Et clairement, moi, je pense exactement comme Romaric Godin. Je pense qu'il faut un rééquilibrage des pouvoirs au sein de l'entreprise et que dans la loi Pacte, avec notamment le fait qu'il y ait un peu plus d'administrateurs salariés dans les conseils d'administration, je pense que c'est tout à fait une bonne mesure.
Mais
je pense qu'à la limite,
Jean-Marc Vittori, on pourrait imaginer que les salariés seraient d'accord pour porter les risques quand ça va mal, à condition que quand ça va mieux, ils en tirent aussi les bénéfices. C'est peut-être aussi le fait qu'il n'y ait pas
cette
mécanisme-là qui pose problème aussi aujourd'hui.
Tout à fait. Mais je pense pas que ça soit au cœur du mouvement qu'on voit actuellement en France. Je pense que les mouvements d'inégalité, de creusement entre une partie de la population qui voit son revenu s'améliorer et une autre partie qui le voit stagner, et surtout une autre partie qui craint pour son avenir, je pense surtout que c'est ça qui est en jeu aujourd'hui.
Je vois Marie Vizot et Sophie Fay qui acquiescent. Marie Vizot.
Non, mais c'est sûr que les gens qui manifestent aujourd'hui, c'est ceux qui pensent que leurs enfants vivront moins bien qu'eux. Une sorte de
Ah non, sinon ils seraient beaucoup plus nombreux.
Oui, vous avez raison. Mais au moins ceux qui défilent pensent ça. C'est une forme de sentiment de déclassement, de se dire on vivait moins bien que nos parents, nos enfants vivront moins bien que nous. Jean-Marc a complètement raison.
Sophie Fay.
Mais ce sentiment de déclassement, il vient pas seulement du pouvoir d'achat et des revenus, il vient aussi d'un point que Marie a abordé tout à l'heure, qui est la composition de la famille.
Ouais,
en fait. On voit que par rapport aux années 60, en fait, on mesure une famille par unité de consommation, parce qu'on considère que si vous êtes deux, vous n'avez pas besoin d'avoir deux frigos, donc vous avez besoin de moins de logement, donc vous avez besoin d'un peu moins de dépenses pour vivre. Donc la première personne dans le ménage, c'est une unité, la deuxième, une demi, et les enfants de moins de 14 ans, c'est 0,3. Et donc avant, dans les années 60, pour une famille, en général, il y avait 3,2 unités de consommation. Aujourd'hui, comme il y a de plus en plus de familles monoparentales, de familles divorcées, c'est 2,2. Oui. Donc forcément, quand vous avez un seul salaire et que vous devez faire vivre deux familles, que vous devez payer des pensions alimentaires qui rentrent dans les dépenses contraintes, la vie est impossible. Et pour revenir sur la stratégie de croissance du gouvernement, la stratégie d'augmentation du pouvoir d'achat du gouvernement, il y en a une qui va peut-être... Il y a un aspect de cette stratégie qui va peut-être marcher, c'est tout ce qu'ils sont en train de faire sur le plan de compétences, la formation professionnelle, pour essayer d'aider ces gens qui sont plutôt dans l'échelle basse des salaires à augmenter en qualification et avoir de meilleurs emplois. Mais ça, avant que ça marche, on voit bien que ça va prendre vraiment du temps. Le plan d'investissement dans les compétences, pour l'instant, il n'a pas encore commencé à le dépenser, le gouvernement. La deuxième aspect de la stratégie qui, lui, je trouve, a un peu raté pour l'instant, c'est la politique de logement. Parce qu'une grande partie des dépenses, c'est les dépenses de logement qui sont très chères dans les grandes villes, qui fait que, y compris dans les grandes villes, on peut avoir ce sentiment de paupérisation, même si son salaire augmente parce qu'on n'a plus accès au logement. Et ça, je trouve que ça a un peu raté pour l'instant.
On voit bien qu'à partir d'une question qui est avant tout, au départ en tout cas présentée comme une réaction à la hausse du prix des carburants, on arrive à des choses extrêmement globales finalement, comme à chaque fois qu'on aborde ces questions, Romaric Godin.
Oui, parce qu'en fait la question du pouvoir d'achat, elle n'est qu'une partie en fait de la réalité économique et je pense que c'est... On a eu un gouvernement qui a fait des promesses économiques assez importantes, pas seulement sur le pouvoir d'achat, et Jean-Marc Vittori l'a rappelé, hein, c'était un projet, il portait un projet économique, vous pouvez apprécier ou pas, mais en tout cas c'était un projet économique, et c'était le cœur de ce projet présidentiel. Et le fait que non seulement ça tarde à venir, comme on dit, mais même la croissance ralentit, fait qu'il y a un effet déceptif là-dessus, rajouté par le fait que c'est à partir de l'été, on a commencé à parler beaucoup du pouvoir d'achat, etc. Il y a un effet déceptif très fort qui dépasse effectivement juste la question du prix du pétrole ou du pouvoir d'achat.
Eh ben merci beaucoup à tous les quatre d'avoir participé à cette discussion. Marie Vizot, Jean-Marc Vittori, Sophie Fay et Romaric Godin. On peut vous lire les uns et les autres dans Le Figaro, dans Les Échos, dans l'Obs et dans Mediapart. Voilà, puis on peut évidemment réécouter cette émission sur notre site internet franceculture.fr, la page du Grain à Moudre. Vous pouvez également nous écrire sur le site. Merci à l'équipe du Grain, Fanny Richer, Antoine Tricot, Virginie Ledoux, Antoine Dulster et Guillaume Laguigné. Émission réalisée par Alexandre Fougeron avec à la prise de son Amine El-Mansari.